Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.
Bonjour à tous et bienvenue pour notre 65e numéro de Scan Imo, le module audio qui décrypte l'actualité immobilière avec une pointe d'humeur et toujours avec une pincée d'humour. Je vous rappelle le concept de Scan Imo. Toutes les semaines, on vous informe des dernières actualités immobilières, des études exclusives, on rencontre des experts de l'immobilier, des intervenants qui vous donnent des conseils pour vous faciliter votre métier d'agent immobilier. Bref, Scan Imo est le podcast qui donne des astuces pour faciliter votre prospection et le recrutement des vendeurs. Allez, sans transition, si je vous dis prospection, digital, visibilité, se démarquer de la concurrence. Vous voyez de quoi je vais parler ?
Chris, on parle de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, de growth marketing et de growth hacking. Oui, je sais, j'ai fait Shakespeare, première langue. Je vois certains là qui se disent, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Est-ce que ces méthodes vont-elles vraiment m'aider pour ma prospection immobilière et capter un maximum de mandats exclusifs ? Le suspense s'élance. En fait, par définition, le growth marketing n'est pas qu'une simple tendance marketing. C'est une méthode complète pour attirer de manière plus efficace des prospects et fidéliser sa clientèle.
Mais vous allez me dire, ah ben je le fais déjà.
Et il y a aussi le growth hacking. Je vous rassure, c'est pas une insulte. En français, ça veut dire piratage de croissance. C'est une méthode visant à créer rapidement la croissance en mêlant le marketing à la data. Et oui, en tant que professionnel de l'immobilier, vous êtes confronté quotidiennement à cela, car vous avez besoin de générer des contacts et rentrer des mandats. Et vous utilisez de nombreux leviers pour atteindre vos objectifs commerciaux. Vous possédez un site internet, une vitrine digitale et des outils digitaux, et vous diffusez des annonces immobilières sur des sites spécialisés. Bref, vous avez déjà pleinement compris et intégré les enjeux du marketing digital pour votre agence immobilière. Et oui, vous voulez attirer des vendeurs, convertir, vendre et fidéliser. Eh bien, le growth hacking est un moyen rapide qui combine tous ces leviers en obtenant des résultats, mais hyper rapides, quoi, j'ai envie de te dire, quitte à forcer les choses. C'est-à-dire, au lieu d'une stratégie de gain de croissance sur 6 mois, eh bien, vous mettez moins de 3 mois. Ces méthodes ont fait le bonheur de nombreuses startups comme Facebook, Instagram, Dropbox ou encore Hotmail. Alors, comment ces méthodes peuvent impacter votre quotidien professionnel ? Quelles sont les astuces pour devenir le roi du growth marketing et hacking ? Allez, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec...
L'invité du jour est
Frédéric Canevet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du blog conseilmarketing.com, product manager chez Eloquent, puis vous enchaînez les activités car vous êtes l'auteur de 2 livres, Le Growth Hacking et Réussir son projet chatbot aux éditions Dunod. Merci d'être parmi nous.
Merci de l'invitation.
Alors pour commencer, question très très simple. Qu'est-ce que le growth marketing ?
Alors, en fait, c'est simple, le growth marketing, ça vient en fait des startups de la Silicon Valley qui, il y a quelques années, quand ils sont lancés, généralement se retrouvaient avec peu de moyens, peu de budget et peu de temps pour réussir. Et donc, leur manière de croître devait être différente des manières un peu classiques corporate des entreprises. Et c'est ça, en fait, qui vient à l'origine, c'est peu de moyens, peu de budget dans un univers concurrentiel, comment s'en sortir. Et le growth hacking, growth marketing, c'est ça. Et il y a donc 2 mots-clés à retenir, la partie growth, qui est la croissance, donc avoir une méthodologie pour assurer la croissance de son entreprise. Et growth marketing, growth hacking, c'est tout simplement avoir des techniques, des outils, des méthodes qui vont hacker, c'est-à-dire pirater le système, donc essayer de faire un petit peu original et différent des autres.
Alors, est-ce que ces méthodes sont exploitables pour des PME, comme les agences immobilières, comme des réseaux d'agences ? Parce que là, vous nous parlez de Silicon Valley, vous nous faites rêver, mais nous, on vend des biens immobiliers, on les achète, on les gère, mais est-ce qu'on peut utiliser ces méthodes magiques ?
Tout à fait. Et même, il y a certaines agences immobilières qui utilisent des méthodes de growth hacking. Je donne un exemple concret et pratique. Donc, une personne, en fait, alors c'est pas moi qui ai géré le cas, c'est un de mes amis, c'est Digital Corsair, Franck Gauthier. Et donc, il y a eu comme ça une personne qui voulait faire de l'intermédiation entre les promoteurs immobiliers et les acheteurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé un outil qui allait rechercher sur Internet toutes les informations sur les différents chantiers qui étaient en cours. Hein, et il a tout simplement agrégé ça sur Internet avec un très bon référencement de chacune des annonces. Et donc, à chaque fois que les personnes sur Internet recherchaient, par exemple, parce que les gens, avant de visiter, ils recherchent sur Internet, mais ils cherchaient, par exemple, villa, tel truc, dans tel endroit. Et en fait, ils tombaient en premier devant, en fait, tous les autres sites des promoteurs immobiliers. Et comme ça, en fait, ils faisaient cette intermédiation-là. Alors, proposant, bien sûr, autre chose, du conseil conseils, des infos, de la négociation, blablabla. Mais son but, à lui, c'était d'arriver entre les promoteurs et les particuliers. Il a réussi à se mettre au milieu pour faire ça. Et donc, sa technique, ça a été justement de faire du gross hacking, c'est-à-dire à utiliser, là, c'était une méthode un petit peu astucieuse, un petit peu intelligente pour récupérer et aspirer toutes les informations comme ça sur les sites internet pour recréer lui-même des infos. Et même, il ajoutait, il enrichissait des choses, c'est-à-dire qu'il rajoutait le plan, la localisation, des choses comme ça, qui faisaient que les gens avaient l'impression que c'était un site qui était fait manuellement, alors que c'était un site qui était fait en automatique.
Et c'est légal tout ça, Frédéric ?
Alors justement, le gross hacking, c'est d'être à la limite de la ligne jaune. Et là, en fait, par exemple, si vous vous souvenez de Keljob, qui est le moteur d'emploi qu'on connaît tous, il a commencé comme ça. C'est, pour l'instant, c'est un site qui, enfin, jusqu'à présent, c'est un site qui est totalement légal, qui est pour nous entré dans les mœurs. Mais à l'époque, en fait, ils ont été à la limite comme ça, pareil, puisqu'ils ont aspiré les offres d'emploi de Pôle emploi, de, je crois qu'il y avait Cadre emploi, etc., etc. Et ils ont tout aspiré pour en faire un site internet agrégateur de contenu. Et ça, c'était à la limite de l'illégalité. Et au début, ils ont des petits soucis. Donc, en fait, le gross hacking, c'est ça, c'est mesurer le bénéfice-risque, un petit peu comme le vaccin qu'on connaît tous. C'est une histoire de bénéfice et de risque. Et par exemple, sur LinkedIn, moi, j'utilise, et beaucoup de gross hackers utilisent, des outils d'automatisation. On peut parler de LinkedIn Helper, on peut parler de Prospectin, etc., etc., qui permettent d'aller automatiser une partie des actions, alors que c'est interdit par l'algorithme de LinkedIn. Pareil, moi, pour mon compte LinkedIn, en fait, je sous-traite une partie de mon activité à mon assistante à Madagascar. Donc, j'utilise un logiciel pour faire une première prise de contact. Ensuite, mon assistante envoie un message personnel parce qu'il faut que le prénom soit bon, il faut que l'entreprise soit bon, et je lui demande d'ajouter 3 petites images aussi au message, et ça, je ne peux pas le faire avec un robot. Et par contre, dès qu'il y a une interaction manuelle, c'est moi qui le fais. Parce qu'il ne faut pas non plus trop automatiser. Si on automatise de trop et on sous-traite trop, et ben en fait, ça se voit, ce n'est pas très beau, et surtout, ça fait nuire à son e-réputation.
Voilà. Alors, vous parlez d'outils digitaux, mais est-ce que vous pourriez faire une petite liste? Quels sont les leviers pour être le roi du gross hacking ou du gross marketing quand on est une agence immobilière? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je dirais que dans les outils, tout dépend en fait de ce que l'on veut faire. Moi, j'essaye en particulier de sous-traiter à mon assistante virtuelle. Alors moi, elle est basée à Madagascar, mais elle pourrait très bien être basée en France. Mais essayer de sous-traiter tout ce qui a peu de valeur ajoutée et tout ce qui peut être semi-automatisé à une personne comme ça. Par exemple, quand on fait des travaux de saisie, récupérer des informations, quand on ne peut pas automatiser, avoir quelqu'un, une petite main, ça peut être un stagiaire aussi, hein. En France, c'est très simple de prendre un stagiaire ou un alternant, qui va faire comme ça une partie de ce travail-là qui apporte pas véritablement valeur ajoutée. Donc ça, c'est la première chose, oser sous-traiter. Parce que souvent, les gens n'osent pas sous-traiter, même si on est une petite agence immobilière, on doit pouvoir le faire. Deuxième chose, c'est utiliser des outils qui vont permettre d'aller automatiser un certain nombre de choses. Alors, il y a des outils comme ça qui permettent de connecter les logiciels les uns aux autres. En particulier, il y a un outil très simple qui s'appelle Zapier, qui permet de connecter, par exemple, une solution d'emailing à Salesforce, à d'autres outils. Et ça, en fait, c'est très pratique parce que ça permet d'aller automatiser un certain nombre d'actions. Ensuite, il y a tous les outils qui vont être utilisés selon le besoin. Comme je le disais, sur LinkedIn, moi, j'utilise LinkedIn Helper, mais il faut se dire où sont mes prospects. On part du principe qu'il faut identifier où sont les carrefours d'audience et comment je peux aller rechercher ces prospects. Un exemple pratique dans le domaine de l'immobilier. Dans l'immobilier, en fait, bah, vous savez comme moi que le gros problème, c'est de trouver surtout des biens à vendre. C'est moins de trouver en fait des clients acheteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs et très peu de vendeurs. Et c'est ça le challenge. Et donc, en fait, il faut se dire, OK, comment je peux faire pour aller trouver des vendeurs ou des biens à vendre? Et on doit comme ça en fait remettre en cause tous ces principes acquis et que font tout le monde pour aller à contre-courant ou trouver un gisement de croissance, quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, je vais parler tout à l'heure de pouvoir aller récupérer des choses, mais c'est aussi changer son espace d'esprit. Imaginons que voilà, vous soyez une agence immobilière et vous me dites « Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc trouver ces fameux vendeurs. » Mais il faut partir à la source. Un vendeur, qu'est-ce qu'il fait avant de vendre? Eh bien, en fait, il se renseigne sur quel est le prix de son appartement ou faire une évaluation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites internet comme ça qui proposent cette partie évaluation-là et notamment, qui permettent d'aller récupérer les acheteurs.
Notamment Meilleurs Agents, je fais ma petite pub, hein, évidemment. Voilà. Hein, vous savez, Frédéric, je place mon produit. Je vous en prie.
Exactement. Et donc là, le principe, ça, c'est d'aller donc en amont de l'acte d'achat. Et c'est vrai que si on veut comme ça se positionner sur un système comme ça, c'est se dire, est-ce que moi, je ne veux pas essayer d'être positionné sur ce prix estimation d'un bien dans une ville, dans une rue, etc., etc., et être super positionné là-dessus, parce que je sais que ces gens qui estiment vont après vendre un bien. Donc, en fait, ce principe-là, c'est vraiment changer de mindset. Et là, ma meilleure agent, comme vous l'avez dit, est exactement là-dessus. On ne va pas chercher à des gens qui sont vendeurs, mais on va aller en amont de l'acte d'achat. Et régulièrement, y a des relances qui doivent être faites. Et ce système d'alimentation régulière de sa base de prospects avec les outils d'emailing classiques est également important. Alors, bien sûr, c'est des outils de marketing que l'on retrouve de manière régulière dans toutes les activités.
Alors, il y a aussi... Lors de l'enquête pour préparer ce podcast, je me suis aperçue qu'aussi le growth, il y avait aussi un effet rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dit au début de notre entretien qu'il y avait effectivement les startups de la Silicon Valley voulaient aussi tester peut-être aussi rapidement, tester des choses. Il y a aussi cette notion de test et rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, en fait, c'est tout cela vient en fait de l'informatique, puisqu'en fait, les startups de la Silicon Valley aux États-Unis, c'était beaucoup des outils technologiques. Et en fait, dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle la méthode agile. La méthode agile, en fait, c'est aller en petites itérations, petit pas par petit pas par petit pas, et tester les choses. Et en fait, ils ont transcrit cette méthode agile dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, on va en fait tester des choses et voir si ça marche ou pas. Au lieu d'avoir des gros cycles, des gros investissements, on va faire des itérations comme ça et des changements réguliers rapides. Donc, la méthode, elle est simple. C'est, vous dites, je veux, par exemple, trouver des nouveaux biens à vendre, en fait, dans le domaine immobilier, ou alors, j'ai un objectif particulier. Je vais me dire, mais comment je peux faire pour atteindre cet objectif-là? Et j'essaye de chiffrer. Combien de biens je dois atteindre, etc., etc. Donc, on essaie de chiffrer. Pour atteindre ce chiffre-là, qu'est-ce que je dois faire? Et là, en fait, il y a une série d'ateliers qu'il faut faire. Le premier atelier, c'est simple, c'est pendant 2 heures, vous mettez devant votre bureau, prenez votre papier, prenez votre crayon et vous notez toutes les idées. Si je veux faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Et on doit identifier les carrefours d'audience. Ça peut être du Facebook, ça peut être du LinkedIn, ça peut être telle chose, ça peut être du Google Maps, enfin bref, se trouvent mes prospects et comment je vais pouvoir les toucher de certaines manières. Et on réfléchit, je peux les avoir de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Et en même temps, après, il faut aller faire un petit peu de la recherche documentaire sur Internet, demander à des amis, etc., etc. Donc, en fait, on va trouver des pistes. Et une fois qu'on a trouvé ces différentes pistes-là, on va les noter. Alors, l'option numéro 1 qui est de faire ça, je le pondère avec trois notes de 1 à 10 sur la méthode ICE. Hein. La méthode, c'est l'importance, le coût et l'envie de le faire. Quel va être l'impact en fait? Est-ce que ça va avoir un gros impact? Est-ce que ça a un coût qui est vraiment élevé, à chaque fois d'une note de 1 à 10? Et est-ce que j'ai vraiment de l'envie? Et est-ce que ça va donner vraiment quelque chose que je vais pouvoir mettre en place relativement simplement et avec beaucoup d'enthousiasme? Et donc à ce moment-là, vous notez toutes ces différentes options. Et généralement, on arrive à 3-4 options maximum. Et dedans, en fait, il y a donc une option principale généralement qu'on choisit. On se dit, ça, je suis sûr que ça va marcher. Ça nécessite un petit peu de temps, mais je vais le faire. Et dedans, généralement, il y a ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire une option qui est vraiment très simple à mettre en place et qu'on va mettre tout de suite et qui va tout de suite apporter des résultats. Et donc, ça, on choisit ça. Et donc, on mesure après, au bout de 2 semaines, 3 semaines généralement, quels ont été les résultats. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Quelles ont été les choses à améliorer? Et une fois qu'on a fait ce petit bilan-là, hop, on peut continuer, essayer soit d'améliorer les choses, soit trouver de nouvelles idées. Et ça, en fait, ça se fait vraiment à tous les niveaux.
Comment vous voyez le growth marketing et hacking dans 10 ans?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le growth hacking, c'était vraiment la tendance, on va dire, des 2, 3, 4, 5 dernières années, puisqu'en fait, les gens cherchaient toujours le petit truc, la petite astuce, le petit truc qui ferait la différence avec le truc un petit peu magique. Si on revient dans le domaine de l'immobilier, le succès de Airbnb venait certes des belles photos, certes du site internet, voilà, ça c'est la belle histoire, mais derrière cette belle histoire, en fait, il y a aussi une clé du succès que Airbnb parle assez peu, c'est qu'en fait, ils ont à la base utilisé un outil sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin en fait aux États-Unis, et en fait, ils ont été crawlés, donc regardez toutes les personnes qui passaient en fait une annonce qui disait je loue mon appartement à tel truc. Et il leur envoyait un petit message en automatique en disant hey, vous savez que si vous vous louez votre appartement sur Airbnb, donc aux gens qui étaient sur Craigslist, vous pourriez vous faire jusqu'à $500 par semaine. Et ça, en fait, c'est un message qui a été automatisé à toutes les personnes qui étaient sur les annonces immobilières. Et ça leur permet d'aller amorcer la base. Donc ça, c'était cette partie qui marchait encore bien il y a quelques temps. Mais il faut savoir que chaque truc et astuce comme ça, en fait, c'est une durée de vie qui est très, très limitée. Il faut savoir que tout cet aspect hacking, bah, à un moment donné, ça devient de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que la partie growth hacking se transforme de plus en plus en growth marketing. Et en growth marketing, on est plus là sur une croissance durable, on n'est plus là sur des coûts qu'on va faire. Et en particulier, on va utiliser les méthodologies qui vont permettre d'avoir une croissance sur la durée, et on utilisera une méthodologie d'analyse de son activité qui est ce qu'on appelle le framework AARRR. Donc en fait, ça permet de modéliser le cycle des ventes avec l'acquisition, l'activation du prospect qu'on a repéré en client, la partie rétention, la partie recommandation, donc le bouche-oreille, et la partie revenu. Et en ce moment-là, en fait, il va falloir essayer de trouver quels vont être les moyens dans ce tunnel de vente, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en acquisition. Ensuite, on a un petit peu moins de gens qui achètent. On a un petit peu moins de gens qui font du bouche à oreille. Il y a un petit peu moins de gens sur lesquels, en fait, on peut augmenter le revenu. Et en fait, on va analyser avec ces cinq moments clés dans la vie du client comment on peut faire pour améliorer les choses et faire en sorte que la conversion et la rentabilité soient la meilleure. Donc, on peut, selon son besoin, on va travailler sur différents moments. Je vous donne un exemple. Mm-hmm. Pour une agence immobilière comme Citir21, le bouche-à-oreille est très, très utilisé. Par exemple, moi, ayant acheté un appartement il y a peu de temps, quand vous emménagez dans votre appartement, le jour donc vous allez, vous faites la visite, etc., etc., et quand vous revenez, enfin, c'est même au moment que vous visitez, eh ben, en fait, l'agence immobilière met « Bienvenue dans votre nouvelle maison » avec un petit mot manuscrit. Généralement, si vous êtes propriétaire, vous avez droit à une petite bouteille de champagne. Si vous êtes plutôt locataire et étudiant, je crois qu'il y avait eu à un moment donné un paquet de bonbons qui était offert. Ça, c'est l'effet waouh. Les gens disent « Ah, waouh !» Ah, ils ont pensé à nous. Et ça, c'est cet aspect un petit peu bouche à oreille, ce que j'appelle référal, la recommandation qui va faire « Ah ouais, je suis passé par une agence qui était vachement sympa. » Et en fait, il faut se dire « Mais est-ce que les gens me recommandent ou pas ? Est-ce que cette étape-là est importante ?» Ça peut être aussi une étape qui est le revenu. Le revenu, comment je peux faire pour augmenter mon revenu et que mon chiffre d'affaires va être beaucoup plus important. Est-ce que je réfléchis comme ça pendant cette session de 2 heures, est-ce que je peux faire quelque chose? Ça peut être la partie activation. Imaginons que on soit agence immobilière. Et donc, en fait, vous avez beaucoup de gens qui visitent, mais peu de gens qui achètent. À ce moment, on peut dire, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et à ce moment-là, il y a plusieurs hypothèses. Vous prenez vos 2 heures encore, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire dans mon agence immobilière pour que l'aspect transformation des visiteurs des appartements en l'acheteur d'appartement soit plus importante. Alors, bien sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça peut être travailler sur les secrets de la persuasion. Le principe, c'est retenir où pêche le cycle de vente. Où, en fait, vous avez... par exemple, 100 personnes qui passent dans l'agence, combien de visites d'appartements, combien après signent. Et ça peut être aussi se dire, au niveau de l'extérieur de l'agence, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a beaucoup de gens qui passent, mais il n'y a personne qui laisse ses coordonnées. Est-ce que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais est-ce que je dois mettre un QR code pour que la personne laisse ses coordonnées? Est-ce que je dois travailler au niveau des écrans? Enfin bref, voilà, il faut réfléchir et souvent réfléchir out of the box. Et c'est pour ça qu'après, c'est plus du hacking avec des trucs et astuces, mais c'est vraiment du marketing. C'est pour ça qu'on parlera de growth marketing, parce qu'on va véritablement essayer de chercher la croissance sur le long terme et pas uniquement jouer sur des coûts.
Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mon cher Frédéric.
Scan Imo, c'est déjà fini ?
Encore merci pour toutes ces informations, Frédéric Canvet. Maintenant, vous avez toutes les clés pour scanner votre futur growth marketing. Et puis, on va laisser de côté le hacking. Pour plus de renseignements et pour votre culture IMO, surfez sur Wikimo Pro, le bag info pro de meilleurs agents. On vous concocte toujours des contenus hyper intéressants, bien sûr. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio IMO.
Scan IMO, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.